Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je suis dans un salon de la gare et je ne voudrais pas déranger les voisins. Voilà pourquoi je vous aurai droit aujourd'hui à un sermon un peu plus intimiste que d'habitude. Nous étudierons, nous contemplerons plus exactement et nous chercherons à tirer profit du mystère de la circoncision. Il ne me sera pas possible de suivre exactement le rythme liturgique, d'ailleurs tel n'est pas mon propos, mais de vous faire découvrir Jésus-Christ et puis vous tirerez profit de tout cela au fur et à mesure de l'année liturgique. Pourquoi parlons-nous de la circoncision? D'abord parce que le catéchisme de Saint Pie X en parle, deuxièmement parce que Saint Thomas d'Aquin en parle, et troisièmement parce que ce mystère dont on parle très peu a en réalité son importance. La circoncision, vous savez ce que c'est, mais je fais attention de ne pas donner trop de détails, bien entendu. Elle a son importance parce que elle est d'abord un signe distinctif. Distinctif des juifs par rapport aux païens. Deuxièmement, elle est une marque dans la chair. Et troisièmement, elle est sur ce membre-là parce que il s'agit du péché originel qui a été transmis par la génération et il s'agit de rappeler aux juifs cette réalité de la génération. Depuis le début, vous voyez, depuis le début de leur vie, ils sont marqués. Il est évident que ce signe peut surprendre des nations civilisées comme les nations chrétiennes, parce que justement nous sommes civilisés, parce que le Christ est venu, parce que nous sommes passés d'un âge un peu infantile, dit saint Thomas à propos de la loi ancienne, c'est-à-dire un âge où on a besoin d'être mené un peu rudement par des lois qui contraignent et qui rappellent à l'enfant qu'il est sous la domination de ses parents, de ses supérieurs. Et de même, il fallait rappeler aux nations juives qui vivaient au milieu d'idolâtres, qui s'étaient complètement affranchis de la loi de Dieu, il fallait leur rappeler qu'ils étaient sous la domination de Dieu. Une fois que ces choses-là ont été comprises et surtout vécues, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa passion, qui a été une obéissance totale à la loi de Dieu, il est évident qu'alors Dieu pouvait nous affranchir non seulement de la loi de la circoncision, mais de toutes les lois anciennes, les lois mosaïques, et parce que la loi nouvelle, c'est la loi d'amour, la loi de charité, qui n'abolit pas les prophètes, mais qui les élève à un niveau tel qu'il n'y a plus besoin de ces prescriptions positives. Saint Thomas d'Aquin pose la question, pourquoi le Christ a-t-il observé les prescriptions de la loi? Et particulièrement, pourquoi observe-t-il la prescription de la circoncision? Saint Thomas donne plusieurs réponses, qui se cumulent bien sûr. La première, pour montrer la réalité de sa chair humaine, une grande préoccupation de Jésus-Christ dans sa sagesse. Nous sommes tellement étonnés que Dieu s'incarne que beaucoup d'hommes ont nié la réalité de l'incarnation. Et il faut la rappeler parce que sinon, il nous manque, j'allais dire, cette main qui prend notre main, cet exemple visible qui nous entraîne à sa suite. À ce moment-là, s'il n'y a pas l'incarnation, si Dieu paraît mais pas avec une véritable chair, alors il ne nous a pas véritablement rachetés, c'est ça le plus important, et il ne nous guide que de très loin et pas de façon concrète. Donc Jésus montre la réalité de sa chair humaine. Deuxièmement, Jésus-Christ, par cette, en acceptant cela, et Dieu en l'imposant à Jésus-Christ et en inspirant la Sainte Vierge et Saint Joseph d'obéir à la loi, alors qu'ils savent très bien que leur fils est Dieu et n'est pas soumis à la loi. Tout ça, ils le savent très bien. Ils ont lu l'Écriture sainte, la Sainte Vierge particulièrement, dans toutes les années qu'elle a passées au Temple. Elle a parfaitement compris la loi et les prophètes, probablement mieux d'ailleurs que tous les théologiens après elle. Elle sait très bien que son fils est le sauveur. J'insiste parce que les modernistes disent que non. Évidemment, comme pour les modernistes, la personne est une question de conscience. Ils disent que Jésus-Christ n'avait pas pleinement conscience de ce qu'il était. Enfin, c'est grave. Et c'est très habituel. Heureusement, cela va tellement contre le bon sens et l'évangile que les gens simples dans le peuple fidèle n'écoutent pas ces fadaises du pape Benoît XVI, ces hérésies du pape Benoît XVI. Ce matin, dans le bus, je me suis assis à côté d'une femme et j'ai vu qu'elle avait dans la main le chapelet. Et je lui dis, « Oh, madame, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui dit le chapelet. » Elle me répond, « Oh, mais mon père, tous les jours en allant au travail, je le dis. » Je reviens à mon sujet. Le Christ approuve la circoncision. Le Dieu a inspiré à la Sainte Vierge et à Saint Joseph de soumettre Jésus-Christ à la circoncision parce qu'ils savent qu'il y a là un mystère qui concerne l'incarnation et que Jésus-Christ réalise de grandes choses en accomplissant les prescriptions de la loi. Donc Jésus-Christ approuve la circoncision, il en montre la valeur. Il approuve donc ce qui a été imposé à Abraham et ce que tous les Juifs ont pratiqué depuis lors. Troisièmement, le Christ prouve qu'il est de la descendance d'Abraham, ce qui est très important, parce qu'il s'agit d'une question d'alliance. Dieu a conclu avec Abraham la première alliance en vue de Jésus-Christ, bien entendu. C'était pas une alliance uniquement avec Abraham, c'était une alliance en vue de Jésus-Christ. Mais justement, Jésus-Christ veut montrer qu'il est dans la lignée, qu'il vient accomplir l'alliance, il fait plus que l'accomplir, je vous l'ai dit, il l'a parfait. Quatrième raison, Jésus-Christ veut retirer aux Juifs une excuse de ne pas le recevoir sous prétexte qu'il aurait été incirconcis, non circoncis. Chaque chose en son temps. Jésus-Christ a pitié de la faiblesse des Juifs tant que la passion n'est pas réalisée, tant que le moment n'est pas venu. Il fait comprendre les choses doucement, progressivement. Il commence par ce qui est à la portée de la compréhension des Juifs. Et petit à petit, il leur demandera d'accepter le reste. Cinquième raison, Jésus-Christ nous recommande par là la vertu d'obéissance. Je voudrais vous donner une petite explication sur cette vertu d'obéissance. On va retrouver le même problème, parce qu'il s'agit d'un problème, à propos de la présentation de l'enfant Jésus au Temple et de la purification de la Sainte Vierge. Et très, très souvent, le fruit du mystère, on rappelle que c'est l'obéissance, et très souvent, on se dit, eh bien, ça n'était pas normal, Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être purifié, ça fait rien, du moment que la loi le prescrit, on le fait quand même, on obéit, même si cela ne signifie pas grand-chose. Alors, il est évident que ça n'est absolument pas cela l'objet de la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance n'a pas pour but de nous soumettre à n'importe quoi, elle a pour but de nous assouplir, parce que nous sommes raides, de nous assouplir devant les prescriptions légitimes, pas devant n'importe quelle prescription. Vous allez me dire, mais à qui il appartient de juger qu'une prescription est légitime ? Ça dépend. Un enfant qui est mineur va obéir, même sans savoir pourquoi, sans comprendre, mais il comprend quand même quelque chose. Il sait que son père est sage, et s'il ne comprend pas toutes les prescriptions de son père, il comprend malgré tout, à travers l'exemple de son père, à travers la sagesse de son père, à travers la sagesse de Dieu qui a fait les parents pour guider les enfants, il comprend qu'il est sage d'obéir. Et parce qu'il est sage d'obéir, la vertu d'obéissance va l'assouplir, faire taire ses caprices qui iraient contre l'obéissance. Lorsqu'il s'agit d'adultes, même si nous ne comprenons pas toutes les raisons et toute la légitimité, le pourquoi de toutes les lois, malgré tout, nous comprenons beaucoup mieux les choses. Et quand il s'agit de lois positives, c'est-à-dire non pas des lois supérieures, nous sommes capables de juger de leur conformité à la loi supérieure. C'est pourquoi il est important de rappeler, particulièrement dans les épreuves de l'Église aujourd'hui et face à toutes les dérives qui nous viennent de la hiérarchie moderne, de rappeler que l'obéissance n'a pas pour objet de rendre légitime n'importe quelle loi, mais de nous assouplir pour accomplir les lois légitimes. Je vous ai déjà fait un sermon sur l'obéissance, vous pouvez vous y reporter si vous voulez. Sur mon site, il y a le plan du site, et vous pourrez facilement retrouver le sermon sur l'obéissance, ou bien en tapant le mot « obéissance » dans la zone de recherche. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ vient obéir. Pourquoi ? Parce que cette loi est légitime en soi, et il est bon pour lui de l'accomplir. Cela entre dans le plan de l'incarnation. Et quoi qu'il s'agisse d'une humilité, voire même d'une humiliation, nous allons encore mieux le voir dans la suite de ce sermon, il se soumet. Et donc nous devons apprendre, nous aussi, à nous soumettre, même lorsque nous sommes humiliés, parce que, comme le disait un bon père dominicain que je connaissais et que j'estimais, et il me disait, l'obéissance te grandit, car l'obéissance te met dans la main d'un plus grand que toi. Je passe sur la sixième raison donnée par saint Thomas, j'arrive à la septième. Jésus-Christ voulait délivrer les autres du fardeau de la loi en portant lui-même ce fardeau. Selon l'Épître aux Galates, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. C'est la grande raison. Saint Thomas aurait pu la donner en premier, mais il a donné en premier les raisons plus faciles à comprendre. Nous arrivons là à la raison qui, justement, rend légitime cette prescription relativement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute l'économie de l'incarnation. Économie, ça veut dire toute la providence de l'incarnation. Jésus-Christ se soumet à la condition du pécheur, sans être pécheur lui-même, bien entendu. Il se soumet à la condition du pécheur pour sortir le pécheur de cette condition et le faire entrer dans la condition de la grâce des chrétiens qui vivent avec lui dans la sainte union et la sainte communion du Père et du Saint-Esprit, avec lui le Fils. Une objection faite par saint Thomas, il se fait lui-même une objection. Quand le Christ paraît, la loi ancienne n'est plus nécessaire. Et donc, Jésus-Christ n'aurait pas dû accomplir les préceptes de la loi mosaïque, je veux dire, pas de la loi de charité, bien entendu. La réponse de saint Thomas, elle nous rappelle toujours une vérité essentielle. Il dit, attendez, c'est au moment de la passion que nous sommes pleinement rachetés et que la loi ancienne disparaît. Tant que la passion n'est pas réalisée, nous sommes dans le passage, justement, de la loi ancienne à la loi nouvelle. La deuxième objection, le Christ est notre modèle, or nous ne sommes plus circoncis, nous les chrétiens, c'est une objection qui a du poids. Réponse de saint Thomas, il faut accomplir chaque chose en son temps. Cette loi était prescrite pour les Hébreux, elle n'est plus prescrite pour les catholiques. Là, il faut que je vous donne une petite explication sur ce que sont les lois positives. Toujours la même chose, pour vous faire comprendre ce qu'est la véritable obéissance et ce que sont les lois. Parce qu'aujourd'hui, avec le drame du modernisme, on confond tout, on ne sait plus ce qu'est la loi, on ne sait plus à quoi on doit obéir, enfin, on le sait. Ceux qui ont la charité, ceux qui ont lu l'évangile savent très bien, parce que l'évangile est clair. Et le catéchisme est clair. Mais la subversion vient tout brouiller. Donc il y a différents niveaux de loi. Vous avez la loi divine, qui est absolument immuable, celle par laquelle Dieu est Dieu, de laquelle découle toute la loi de la raison, la loi de la création, à savoir que ce qui est, est, ce qui n'est pas, n'est pas, à savoir qu'on doit respecter l'ordre des causes et des conséquences, etc. Cela se traduit par la loi naturelle, à savoir qu'on doit respecter son prochain. Même Dieu pourrait pas faire qu'on ne puisse pas respecter son prochain. Cela irait contre sa sagesse, contre son amour, contre lui-même. Si Dieu disait tu haïras ton prochain, ben Dieu ne serait pas Dieu. Je sais bien qu'il y a un théologien qui a osé dire que si Dieu avait dit tu me haïras moi, nous aurions dû haïr Dieu. C'est ridicule, il faut le reconnaître. Vous avez la loi de charité, bien entendu. Dès que le Christ paraît, vous avez la loi de charité, qui en réalité existe depuis Adam et Ève, bien entendu, mais qui a été tellement occultée qu'on en parle à partir du Christ, parce que c'est lui qui a réalisé la plénitude de la loi de charité et qui nous a donné de pouvoir la pratiquer. Mais il est évident que même sous l'ancienne loi, les justes, que ce soit Abraham, David, Moïse, Saint Joseph, la Sainte Vierge, les patriarches, les prophètes, tout cela vivait d'autant plus dans la loi de charité qu'ils avaient déjà la connaissance du Christ. Et même les petits, les humbles et les fidèles hébreux avaient une certaine connaissance du Christ et avaient un amour de Dieu. La preuve, c'est que lorsque Dieu, Jésus-Christ interroge un des pharisiens sur la loi, que trouves-tu? Quelle est la loi de Dieu? Alors Jésus-Christ lui pose la question, mais que lis-tu dans la loi et les prophètes? Hein, je lis que je dois aimer Dieu en toutes circonstances et mon prochain comme moi-même. Donc la loi de charité était quand même déjà présente. Mais comme je vous l'ai dit, les Hébreux étaient plus traités en enfants qu'en adultes. En dessous de toutes ces grandes lois, vous avez des lois qui vont s'adapter aux circonstances. La loi qu'on fait pour les enfants n'est pas la loi qu'on fait pour les adultes. De même, les lois vont dépendre des circonstances, par exemple, des conditions de l'Église. Les lois qu'on fait dans les pays de mission ne sont pas celles qu'on fait dans les pays de vieille chrétienté. Voilà pourquoi la loi mosaïque a disparu, parce qu'elle est adaptée, comme je vous l'ai dit, d'abord à des conditions de l'époque au milieu des païens, aux conditions des juifs qui avaient la nuque raide, et à rappeler cette vérité essentielle que nous sommes des créatures dépendantes de Dieu, que Dieu nous aime et que nous devons l'aimer, mais enfin qu'on ne peut pas construire l'amour de Dieu sur l'indépendance, mais qu'on ne peut établir l'amour de Dieu que sur une grande dépendance envers Dieu. Maintenant que nous l'avons compris, ces lois mosaïques ne sont plus nécessaires, et voilà pourquoi nous ne sommes plus circoncis. Mais, rappelez-vous ce que dit Jésus-Christ dans l'Évangile, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Et le catéchisme de Saint Pie X nous dit, pour correspondre à ce mystère, nous devons pratiquer la circoncision spirituelle, qui consiste à enlever du cœur le péché et toute affection désordonnée. Le mystère de la circoncision est un mystère que nous devons comprendre ce sens que il ne s'agit pas de dire ce n'est pas pour nous, il s'agit de comprendre que notre Seigneur nous guide sur un chemin qui nous fait monter vers la Sainte Trinité, et que pour monter vers la Sainte Trinité, nous devons être circoncis spirituels, c'est-à-dire, comme il s'agit de la génération, circoncision c'est le membre de la génération, il s'agit que nos œuvres, ce que nous engendrons, nous n'engendrons pas que des enfants, nous engendrons des actes de volonté, des actes d'intelligence, et puis des actes de force, de faiblesse, enfin tous les actes de vertu, il s'agit que ce que nous engendrons soit purifié. Et c'est au nom de la circoncision que nous pouvons exiger de nous-mêmes et que nous, les prêtres, nous avons le droit de vous demander à vous les fidèles et que nous avons le devoir de vous rappeler à vous les fidèles que vous devez vous purifier de la télévision, d'Internet, des moyens audiovisuels, des sales images, que vous devez éviter la vulgarité pour pratiquer la dignité, que vous devez éloigner tout ce qui rabaisse, pas seulement ce qui salit, pas seulement ce qui salit, mais également tout ce qui rabaisse. Je ne vais pas vous faire tout de suite tout un sermon là-dessus. Monseigneur Lefebvre, même dans les statuts de la Fraternité Saint-Pilice, nous dit qu'il y a des choses qui, quoi qu'étant bonnes, nous rabaissent et que par conséquent, nous devons nous en écarter. Voilà, demandez à la Sainte Vierge de vous guider dans ce mystère de la circoncision. Demandez-lui de vous donner cette grande générosité, d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, étant donné la grave situation de l'Église, c'est à vous de vous laisser directement guider par les mystères du Christ, parce que, hélas, ceux dont c'était la charge ne le font plus. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.